tout le monde et bienvenue à la table du débat de midi où les choses vont peut-être un peu chauffer aujourd'hui. Chauffer comme le moteur d'une voiture, notre sujet du jour, mais chauffer surtout tant ce sujet semble viscéral. Nos bagnoles, nos autos, nos tacos, nos caisses, nos titines. Oui, titines, le petit surnom témoignant de l'attachement, voire de l'amour inconditionnel de certains conducteurs. 40 millions de voitures en circulation en France, la courbe est en hausse, continue, comme celle des émissions de gaz à effet de serre qu'elles génèrent. Le trafic routier est le principal responsable devant l'agriculture et l'industrie. Il y a aussi la pollution de l'air qu'elle provoque, avec les oxydes d'azote en particulier. Alors, les politiques s'attaquent de plus en plus aux voitures pour tenter de réduire le trafic ou de les remplacer avec des véhicules qu'on appelle propres, les électriques. Fin des ventes des voitures thermiques en Europe en 2035. Restriction de circulation dans les 45 principales agglomérations françaises où diesel et essence les plus vieilles ne seront plus les bienvenues d'ici 2025. Pression sur les constructeurs avec des normes de plus en plus exigeantes. Enjeu environnemental et de santé publique, mais aussi bonne soit l'intention, est-elle juste socialement? Les mesures mises en place seront-elles efficaces? Quelles alternatives et correspondent-elles aux usages? La voiture a-t-elle encore sa place ou est-ce tout simplement la panne sèche qui la guette? En voiture, Simone, on est ensemble jusqu'à 13h.
Camille Cronier, le débat de midi sur France Inter.
Et j'attends comme toujours, chères auditrices, chers auditeurs, vos messages et vos questions via l'application France Inter, le mail ou sur Twitter avec le mot-clé débat de midi que je relayerai à mes quatre invités du jour. Bonjour Lucile Ramakers.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure spécialiste en mobilité urbaine et consultante pour le cabinet Transmission. Bonjour Alice Timsit.
Bonjour.
Vous êtes conseillère écologiste élue du 19e arrondissement à la mairie de Paris. Bonjour François Roudier.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la plateforme automobile qui rassemble toute la filière, hein, c'est ça, à commencer par les constructeurs. Et bonjour à vous Pierre Chasseret.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes puisqu'il y a, comme son nom l'indique, 40 millions, c'est ça, de voitures en circulation en France.
C'est à peu près ça. Il y a un petit peu moins d'automobilistes, mais on a pris un peu d'avance. Voilà.
Est-ce qu'il y a des départements où on utilise plus la voiture que d'autres ?
Il faut comprendre une chose, c'est 40 millions d'automobilistes, c'est aussi 40 millions d'usages différents de l'automobile. On est 5 autour de cette table et on est 5 à utiliser l'automobile, j'en suis absolument persuadé. Mais chacun de manière extrêmement différente. La difficulté, c'est justement lorsque l'on prend des mesures qui sont applicables à tous, avec des mesures qui peuvent sanctionner tout le monde, mais sur des utilisations qui sont parfois différentes.
On va évidemment en parler. Juste pour faire un petit point, quelles voitures majoritairement aujourd'hui sont en circulation? Quel type de voiture?
On a tout. On a un parc relativement vieillissant parce que les voitures sont de plus en plus fiables. Donc on a un parc qui a dépassé les 10 ans de moyenne d'âge, ce qui n'est pas sans laisser transparaître deux problèmes. Un, les Français n'ont peut-être pas les moyens d'accéder à des véhicules neufs. C'est le premier problème. Le deuxième point, c'est pourquoi mettre au rebut des véhicules qui fonctionnent encore?
François Roudier, c'est quoi? C'est les berlines et les SUV quand même?
Des petites, non. En circulation actuellement, ce sont des petites et moyennes véhicules diesel. En circulation. En vente, ce sont plutôt des petits SUV, ce qu'on appelait avant les crossovers. En fait, c'est sur la base une petite berline, une voiture qui est un peu plus haute.
Et le trafic est en hausse continue, c'est ça, depuis quand ?
Le trafic est en hausse et sérieusement depuis la crise Covid, hein, puisqu'on a vu un déport du transport collectif vers le transport routier et aussi pour les salariés qui ont repris leur voiture.
Alice Timsit, est-ce que vous avez ou vous avez eu une voiture, vous ?
Non, je n'ai jamais eu de voiture.
Et vous avez l'intention d'en avoir une un jour ou pas ?
Non, toujours pas, mais voilà, il m'arrive bien entendu de manière assez épisodique de prendre la voiture, comme beaucoup de personnes. Ça correspond à des usages différents, mais aujourd'hui on voit s'imposer de nouvelles restrictions de circulation partout en France et en Europe. Mais je pense qu'il faut surtout s'interroger en fait sur la raison pour laquelle on fait ça. Quel est l'objectif ? Quel est le but ? C'est un enjeu de santé publique.
Vous avez, vous, Lucile Ramakers, une voiture ?
Non plus, et
pourquoi
j'en ai jamais eu. Et c'est l'avantage, évidemment, de vivre dans une ville dense. Hein. On ne va pas se le cacher. Par contre, il faut savoir que dans la ville dense, la voiture est le moyen de transport le moins efficace qui soit, puisqu'il est garé 95% du temps et il prend de la place et il consomme de l'essence. La marche à pied étant, bien sûr, le mode de transport le plus le plus, enfin, le largement dominant dans les villes.
Vous vous déplacez à pied, en vélo,
en à pied, transport. En vélo, en transport en commun.
Alors, je le disais, hein, de plus en plus de mesures sont mises en place dans les villes, notamment ce que le gouvernement appelle, le qualifie de meilleur outil et appelle les zones à faible émission. C'est inscrit dans la loi climat qui a été adoptée avant-hier, mardi. Alors, si vous vous dites, c'est quoi ce truc, zone à faible émission, j'ai jamais entendu, c'est quoi ce nom barbare? C'est normal, hein, 60% des Français ne connaissent pas, d'après les sondages. Petite explication avec un exemple à Reims, extrait d'un reportage de France 3.
Une voiture en route vers le centre de Reims. Cela vous semble banal ? Pourtant, bientôt, les choses vont se compliquer. D'ici 2024, la mairie de Reims veut interdire les véhicules les plus polluants dans l'hyper-centre-ville. Le projet de la future zone à faible émission est en train de se concrétiser. À terme, tout un périmètre sera interdit aux véhicules les plus polluants. Ils ne pourront pas circuler entre les rocades internes de Reims ainsi que sur une partie de la voie Tétinger. Pour le maire, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'air. En 2024, seuls les véhicules électriques, hybrides et critères 1 et 2 seront autorisés à circuler à Reims, soit les voitures essence mises en circulation après 2006 et les diesels après 2011.
Et en plus de Reims, il y aura 45 agglomérations au total d'ici 2025. Hein, les agglomérations de plus de 150 000 habitants concernées par ces zones à faible émission. C'est déjà le cas à Grenoble, à Rouen ou à Paris, Alice Timsit. Pourquoi est-ce qu'on choisit les vignettes critères pour savoir quelles voitures doivent circuler ou pas, sachant qu'elles sont basées sur donc la date de mise en circulation ou de fabrication? J'ai un petit doute d'ailleurs, c'est la date de critère, c'est quoi?
Fabrication.
La date de fabrication, d'accord, et pas sur la pollution effective qu'elle génère.
Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, Paris a mis en place cette zone à faible émission. D'ailleurs, elle a été pionnière puisqu'elle a initié, elle a instauré ce dispositif dès 2015. Là, il a été renforcé depuis et il va s'étendre à 45 agglomérations françaises. Mais j'aimerais juste dire que ça participe déjà d'un mouvement beaucoup plus global. La France a rendu obligatoire l'instauration de ce dispositif-là, mais ils ont vu déjà le jour en Europe depuis fort longtemps. Dès le milieu des années 90, en Europe, des zones de cette nature ont vu le jour parce qu'elles sont particulièrement efficaces. Très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va souhaiter accélérer le renouvellement du parc de véhicules et restreindre progressivement la circulation des véhicules les plus polluants.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où on se parle, le 22 juillet, quelles voitures peuvent circuler en semaine dans Paris?
Alors, en semaine, donc de 8h à 20h, à l'exception des jours fériés, peuvent circuler les voitures de critères 1, 2 et 3. Donc, sont exclus les critères 4 et 5, notamment les voitures non classées. Pour les critères 3 et 4, il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il s'agit donc des véhicules diesel avant 2006 et essence avant 97. Donc on exclut ces voitures-là. Pourquoi? Mais encore une fois, j'aimerais véritablement insister.
C'est pas tout à fait ça.
J'aimerais insister sur l'enjeu et le but, l'objectif. Aujourd'hui, on est confronté à une urgence climatique. On est confronté à une urgence en termes de santé publique. Nous mourons de la pollution de l'air. C'est un fait, c'est factuel. Nous mourons de la pollution de l'air et il y a à l'échelle notamment de la métropole du Grand Paris près de 6600 décès prématurés par an. Et au-delà de ces décès, c'est autant de pathologies graves qui sont provoquées par la pollution de l'air. De l'asthme, des maladies cardiovasculaires par exemple.
François Roudier, moi je voudrais comprendre, avant de reparler évidemment de la pollution et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la pollution de l'air, etc. François Roudier, je voudrais savoir, moi, pourquoi les voitures les plus vieilles sont les plus polluantes, en fait? En quoi c'est corrélé?
Bah écoutez, c'est tout simplement technique. C'est que vous avez des voitures, une voiture qui a 10 ans d'âge, qui est sortie il y a 10 ans, il faut comprendre qu'elle a été conçue il y a 15 ou 16 ans. Parce que vous avez toujours une mise en place de l'industrialisation. Donc c'est une période où on savait moins réduire la pollution, moins réduire les oxydes d'azote, moins réduire les émissions de particules. Et aussi, ce sont des voitures qui sont moins sûres, parce que le niveau de sécurité est un petit peu différent. Vous le voyez dans les voitures que vous utilisez. Prenez une vieille voiture, vous avez moins d'airbags que dans une voiture actuelle. Mmh. Donc c'est pour ça que nous, en tant que constructeurs et dans toute la filière, on a toujours soutenu cette idée du renouvellement du parc. qui est.
De toute façon, parce que vous avez intérêt aussi à vendre des voitures.
En plus, on est
d'horrible
capitaliste. Effectivement, on va vendre plein de voitures neuves. Donc, c'est pas forcément ça. C'est que si vous voulez, lorsqu'on se fait attaquer sur la pollution des voitures, on passe notre temps à dire mais regardez, ce sont pas les dernières voitures qu'on sort. Même les derniers moteurs thermiques ont des critères d'émission extrêmement bas. C'est surtout quelques vieux véhicules qui polluent terriblement. Alors, si vous voyagez dans les grandes villes, vous le verrez très bien. Il y a certains véhicules utilitaires légers anciens qui crachent noir et qui polluent 10 fois plus.
Pierre Chasseret, cette mesure, donc les zones à faible émission, ça va concerner donc d'ici 2025 combien de véhicules au total ?
Alors, j'ai entendu depuis le début beaucoup de petites erreurs. Je vais vous répondre déjà pour commencer. Ça va aujourd'hui, si on transpose, on est à en gros 6 véhicules sur 10 qui vont être touchés. Mais j'aime pas parler de véhicules sur 10, moi. Je trouve que cette statistique, elle est nulle. En fait, c'est même.
C'est vous qui l'a donné, hein.
Ouais, mais j'aime pas en parler en ces termes parce qu'en fait, derrière le volant, il y a quelqu'un. Il y a un automobiliste, un foyer, un ménage qui gagne de l'argent, qui va bosser.
Alors, combien de personnes alors vont être concernées?
Eh ben, vous allez toucher 60% des Français qui ne vont plus pouvoir utiliser leur voiture partout. Donc, ils vont, quand vous ne pouvez pas utiliser quelque chose de légal, moi, ça me paraît toujours assez bizarre. Donc ensuite, j'ai entendu des petites bêtises. Donc, je vais corriger à chaque fois. Déjà, les zones à faible émission, ce que j'appelle les zones à forte exclusion, ne touchent pas les véhicules d'avant 2006 et celles d'avant 1997. Ça, c'est la mesure actuelle mise en place par Paris. Mais Paris, ce n'est pas la France. Ce que dit le texte de loi...
Ça touche, pardon, c'est les zones à faible émission existent aussi aujourd'hui à Lyon, à Grenoble ou à Rouen.
Aujourd'hui, mais ce que dit le texte de loi sur les zones à forte exclusion, donc
les zones à faible émission, oui.
Eh bien, il dit tout simplement que tous les véhicules diesel d'avant 2011 ne pourront plus circuler, que tous les véhicules essence d'avant 2006 ne pourront plus circuler. Vous voyez tout de suite que ça donne plus la même statistique du tout. La réalité, c'est qu'on va se retrouver avec une France divisée en deux. Ceux qui ont les moyens d'acheter un véhicule neuf en mettant au rebut un véhicule qui fonctionnait très bien, c'est très écologique de mettre au rebut un véhicule qui fonctionne bien, d'ailleurs quand on y réfléchit, plus stupide on peut pas trouver. Et donc, vous avez cette population qui va pouvoir rouler quand même parce qu'elle aura les moyens d'acheter un véhicule neuf, et ceux qui n'auront pas les moyens, eh ben eux, ben tant pis, pour eux ils prendront le bus.
Lucile Ramakers, pour répondre à ce que dit Pierre Chasseret.
Alors déjà, je pense que vous oubliez largement qu'il y a beaucoup d'aide à l'achat et à la conversion des véhicules.
Combien, par exemple, les gens qui se disent « moi je voudrais savoir » et qui n'ont pas d'idée.
Dans le grand métropole du Grand Paris, ça peut aller jusqu'à 19 000 euros pour l'achat d'un véhicule neuf électrique. Donc on ne peut pas dire que ce soit...
Qui ne remplit pas les besoins d'un
Ça coûte combien, François Roudier, un véhicule électrique aujourd'hui, en moyenne?
Alors c'est ça le problème. Le véhicule électrique, il est 3 fois plus cher que son équivalent en thermique.
Oui, mais ça coûte combien en moyenne?
35 000 sans aide. Sans aide. Donc, effectivement,
donc si on enlève quasiment 20 000 euros, ça reste quand même 15 000 euros à sortir.
Mais le problème, et ce que disait Pierre Chasseret est en partie vrai, c'est que oui, lorsque vous avez un vieux véhicule qui a une valeur de quelques centaines d'euros, même si on vous donne 19 000 euros, il va vous rester 15 000 euros à payer. C'est le niveau de vie de cette personne.
Lucile Ramakers, du coup,
ça bloque. Ça reste un niveau de subvention qui est très élevé. Hein. Il faut quand même avoir conscience de ça. Autre point, il y a quand même une étude de la DREE de Île-de-France. Donc,
c'est quoi la DRE, pardon?
Alors c'est la direction régionale, et là je ne vais pas les écorcher, mais environnement et j'ai oublié. C'est l'étude qui a été faite sur les ménages effectivement concernés et ceux qui ne pourront pas se passer de la voiture, ça représente 17 000 ménages.
Oui, alors, mais vous parlez de l'Île-de-France. Les ZFE, les zones à faible émission, vont concerner 45 agglomérations d'ici 2025. C'est les agglomérations de plus de 150 000 habitants, donc c'est le maillage entier de la France.
Oui, attention, ce sont des agglomérations, c'est-à-dire, ce n'est pas uniquement, j'ai entendu Reims. Ce n'est
l'agglomération
pas Reims,
de Reims.
C'est Reims et les petites villes qui sont autour. Donc des noms de villes où dedans vous avez besoin de ce véhicule pour aller faire vos courses, pour emmener vos gamins à l'école. On va sanctionner des gens qui vont faire les courses. Moi, franchement, j'aurais tout vu. Quoi.
Je trouve que vous versez facilement dans la caricature en parlant de France divisée en deux. Il faut alors Lucile Ramakers a parlé des aides financières. Il existe des aides, mais il faut aussi se rendre compte qu'il existe des modes alternatifs de déplacement, d'accord ? Notamment dans les grandes agglomérations. Moi, je suis élue parisienne, donc je vais notamment parler de la ville et de l'agglomération parisienne que je connais. Il existe des modes alternatifs de déplacement. Aujourd'hui, il y a environ 20%, Voilà, 20% des déplacements qui se font en voiture dans Paris qui sont indispensables. Indispensables. Les 80% restants sont des déplacements qui sont considérés comme non indispensables.
Et qu'est-ce qui ça veut dire, quoi derrière indispensable et non indispensable alors, ça c'est important à savoir.
Alors, c'est soit des déplacements pour lesquels il n'y a pas d'alternative en transport en commun, ou alors pour lesquels les personnes ne peuvent pas se déplacer en vélo, à pied. Ce sont des déplacements qui sont rendus indispensable.
Lucille Ramakers, qui se déplace le plus aujourd'hui dans Paris, par exemple, en voiture ?
Eh bien, en voiture, ce sont des gens qui restent dans Paris sur des trajets qui font moins de 10 km aujourd'hui, et donc clairement qui pourraient, pour partie évidemment, être faits en vélo, en transport en commun ou à pied. À l'échelle de l'Île-de-France, les deux tiers des déplacements font moins de 3 km et moins de 30 minutes. Il faut quand même avoir ça en tête. Hein. Ouais.
Il faut vraiment connaître le profil type de l'automobiliste à Paris. Là, je parle encore une fois de Paris parce que on nous oppose souvent le fait que, ces zones à faible émission, en tout cas les restrictions de circulation, c'est s'attaquer aux personnes les plus modestes, c'est s'attaquer aux personnes qui habitent la banlieue. Mais c'est vraiment méconnaître le profil type de l'automobiliste parisien, qui est généralement une CSP+, donc catégorie socio-professionnelle aisée, seule dans sa voiture, à 80% des déplacements, pour faire des trajets de moins 10 km.
Mais encore une fois, on ne parle pas que de Paris, Roudier. C'est des choses aussi que les constructeurs, j'imagine, auxquelles les constructeurs sont en train de réfléchir pour peut-être. On parlait des aides, 19 000 euros, mais qui restent encore insuffisantes, puisqu'on disait qu'il faut encore sortir au moins 15 000 euros. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens. Est-ce que les constructeurs, par exemple, pourraient penser à baisser tout simplement le prix des voitures?
Écoutez, si on pouvait le faire, on le ferait. Or, le problème, il faut être sérieux quand même sur cet aspect industriel. C'est-à-dire que sur le thermique, on a réussi à arriver à des niveaux assez bas. Vous avez maintenant des voitures neuves à 7 000, 8 000 euros en thermique et essence. Pour le faire sur des voitures électrifiées, c'est-à-dire qu'une batterie électrique, qu'une partie de moteur électrique, là, c'est difficile parce que vous avez le problème de la batterie. La batterie, dans un véhicule, c'est 30 à 40% de la valeur de ce véhicule. Et la batterie, ce sont des cellules, c'est de la chimie. Et là, on n'arrive pas à avoir la même descente en coût d'échelle qu'on a connue dans l'automobile depuis Henry Ford. On sait qu'on va réussir sûrement dans 10 ans à diminuer de moitié le coût de ces batteries, mais ça va quand même rester plus cher qu'un véhicule thermique.
Un message par mail qu'on reçoit, qui n'est pas signé, qui nous écrit: avant d'interdire la voiture en ville, il faudrait commencer par créer des parkings suffisants en nombre de places et des transports en commun pour rejoindre la ville. Il y a longtemps que ça existe à Nantes, le parking est gratuit et on paye juste le tram. Est-ce que ça pourrait être une solution pour vous, Pierre Chasseret, une sorte d'entre-deux acceptable?
De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai entendu depuis, je suis content d'entendre Nantes, parce que depuis qu'on est assis ici, j'entends parler que de Paris. Paris n'est pas la France. C'est même pas l'Île-de-France. Paris, c'est à part. C'est la capitale. Ce qui se passe, vous prenez l'exemple de Lille. La maire de Lille, qui est de la même tendance politique. Hein, donc voilà,
Paris et l'Île-de-France sont quand même les zones les plus peuplées en France.
Bah, 2 millions d'habitants à Paris, 70 millions en France. Je pense que le rapport, il me paraît quand même suffisamment en faveur des Français qui habitent ailleurs qu'à Paris. Hein.
Bon, dans tous les cas, le sujet n'est pas Paris ou le reste, c'est là pour répondre à ce mail.
Vous allez à Lille, vous trouvez un parking relais gratuit et surveillé. J'insiste bien sur le « et surveillé », parce que s'il s'agit de trouver des parkings relais gratuits, il y en a en Île-de-France. Je peux vous dire, quand vous laissez votre voiture, vous n'êtes pas certain de la retrouver en un seul morceau le soir. Pour en avoir fait les frais d'ailleurs. Lorsque vous allez à Lille, évidemment, ce parking est gratuit et surveillé, à condition que vous ayez aussi vos tickets de transport qui vous permettent d'entrer dans Lille. Ça a fonctionné. Le jour de l'ouverture, le parking était plein.
Donc ça pourrait être une
solution.
Bien sûr
que ça fonctionne,
vous.
Parce que ce qu'ils font comprendre, c'est qu'une ville, évidemment, n'a pas vocation à accueillir toutes les voitures du monde. C'est une évidence. En revanche, une chose est sûre, vouloir restreindre l'accès sur des principes arbitraires en annonçant des montants délirants d'aide et de financement qui n'existent pas, parce que les 19 000, je vous mets au défi d'aller les trouver, eh bien, je peux vous dire que derrière, ça ne fonctionne pas. C'est tout. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de mettre, qui veut un véhicule familial électrique, c'est 50 000 balles. 50 000 balles, je veux bien entendre, même avec 19 000 euros de moins, quand vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les moyens, c'est tout.
Allez, la voiture et les restrictions de circulation, c'est le thème de ce débat de midi réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Adrien Nazelli avec Thomas Gentil. Et c'est Henri Bérec qui est à la technique. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me? Broken across the world. My Head, c'était London Grammar.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Et on parle voiture aujourd'hui avec mes invités Pierre Chasseret, porte-parole délégué général de 40 millions d'automobilistes, François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile qui regroupe toute la filière, Alice Timsit, élue écologiste à la mairie de Paris, et Lucille Ramakers, experte en mobilité urbaine. Il y a un enjeu derrière ce sujet aujourd'hui, c'est l'enjeu environnemental, c'est les émissions de gaz à effet de serre d'une part et la pollution de l'air d'autre part. Est-ce qu'on peut faire un point précis pour comprendre? On dit oui, ça fait des gaz à effet de serre, oui, ça fait de la pollution de l'air. Qu'est-ce qui pollue dans une voiture, Lucille Ramakers?
C'est ce qui sort de la voiture. Hein. Donc, c'est principalement des dioxydes d'azote et des particules fines. C'est vraiment les éléments sur lesquels on va baser les mesures pour voir si les mesures sont efficaces. L'enjeu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de la santé publique.
Les chiffres alors, varient à l'échelle nationale, tout le temps. On parle de 40 000 morts, 100 000 morts.
On estime, c'est Santé publique France qui l'a estimé. 48 000 décès prématurés par an en France.
Et 7 millions dans le monde.
Et au niveau des gaz à effet de serre, parce qu'il y a deux volets, les gens, faut bien comprendre, il y a la pollution de l'air avec les problèmes de santé immédiate, on va dire, que ça peut poser, et la contribution au réchauffement climatique, c'est quoi? C'est le CO2, les voitures émettent du CO2 à l'estime site?
Deux centrales à charbon allemandes, c'est l'ensemble du parc français.
En
CO2.
Donc c'est pas beaucoup selon vous, c'est quoi?
En CO2, ça a fortement diminué parce que vous avez eu une amélioration de la consommation des véhicules. Donc plus vous consommez, moins vous émettez de CO2. Avant, on avait un vrai problème avec les véhicules.
Et il y a des normes aussi, je crois,
qui imposent maintenant aux consommateurs. Il y a des normes qui ont été extrêmement drastiques, qui continuent. Donc, c'est pour ça aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi on passe à l'électrification, nous les constructeurs. C'est parce qu'on arrive à une fin technique de ce qu'on peut faire avec le moteur thermique. Donc l'électrification, soyons clairs, elle est irréversible.
Donc ça veut dire que, pardon, dans 10-15 ans, de toute façon, il n'y aura plus que des véhicules électriques.
On se reparle dans 15 ans, on parlera que de voitures électriques.
Alors, on a un message sur Twitter de Christine qui nous écrit « Je suis convaincue qu'il est plus efficace pour l'environnement de réduire le nombre de voitures en ville en investissement massivement sur les alternatives, plutôt que de chercher en priorité à transformer le parc automobile. » Elle dit « Il faut transformer les usages plutôt que juste transformer le parc. » Pierre Chasseret, vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a deux façons de faire de la politique sur la voiture. Vous avez la séduction ou la contrainte. Le choix qui a été fait a été celui de la contrainte. On interdit purement et simplement sur un principe...
Parfois, Pierre Chasseret, c'est aussi pour faire avancer les choses. La contrainte fait avancer les choses.
Vous avez quelqu'un dans une voiture qui est dans les bouchons dans des grandes villes françaises, si on lui offre une alternative qui lui permet d'aller plus vite, plus confortable et en plus de ça tout en sécurité, il va le faire.
C'est véritablement faux. C'est une contre-vérité puisque il y a quatre. Alors là, je prends de nouveau et pardonnez-moi, cher monsieur, l'exemple de Paris. Mais à Paris, il y a une étude qui a démontré que 80% des automobilistes déclaraient prendre leur voiture par confort notamment.
C'est la phrase que je viens de prononcer.
Donc en fait, c'est une question de choix politique. C'est une question de priorité politique. C'est une question de vision de la société. Dans quel monde on a envie de vivre demain? C'est véritablement un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, je l'ai dit, on meurt de la pollution. Voilà, c'est 6600 décès.
J'étais en train de parler.
Il y a des pathologies graves qui sont associés. Il y a aussi une pollution dont on parle assez peu, c'est les nuisances sonores qui réduisent jusqu'à 11 mois.
Il y a beaucoup de messages d'auditeurs sur la pollution sonore.
Voilà, pollution sonore, ça réduit jusqu'à 11 mois d'espérance de vie. Et donc ça altère fortement notre santé. Et là, l'auditrice qui vous écrivait soulevait un problème important. Il ne s'agit pas uniquement de transformer le pack de véhicules, il s'agit de réduire significativement la place de la voiture et d'investir massivement pour proposer des alternatives en transport en commun, la marche à pied, le vélo et les transports collectifs.
Pierre Chasseret, vous entendez quand même cet enjeu de santé publique avec la pollution de l'air qui est réel et l'impact du trafic routier sur les émissions de gaz à effet de serre?
Deux choses à dire et après je serai très sage. La première, c'est que l'année dernière, on a eu un épisode qui s'appelle le confinement. Ça a été dur. costaud, sévère. 87% des déplacements. Alors, je vais sourcer. Ça m'évitera d'avoir affaire à des vrais faux derrière qui me disent Pierre Chasseret n'a pas sourcé. On a eu une baisse de 87% des déplacements en voiture des particuliers.
En France, vous parlez ?
Ouais, mais c'était la même chose dans toutes les, dans toutes les grandes agglomérations. 87% en moins, il suffit de se souvenir, il n'y avait personne dehors et personne en voiture. 87% en moins. Ça, et derrière, on a eu une réduction à l'échelle, notamment Île-de-France, de 7%
de
des particules fines.
7% des particules fines.
Une baisse de 7% des particules, des émissions de particules fines globales. Attention, globales, hein, qui comprennent pas que la voiture. Tout était à l'arrêt en France. 87% de déplacements en voiture en moins des particuliers.
C'est quoi votre source 7% pour les
7% je crois de mémoire que si je dis pas de bêtises, soit c'est l'ADEME, soit c'est Air Paris.
Alors Air c'est Paris justement répond sur ce point-là. Le porte-parole s'appelle Pierre Pernaud. Écoutez ce qu'il répond là-dessus.
Pendant le premier confinement, il y a eu une baisse de 7% des concentrations en particules, et non pas des émissions. Donc une baisse de 7% des concentrations en particules fines PM2.5, parce que ces particules, elles ne sont pas uniquement issues du trafic routier, elles sont aussi issues d'autres sources qui sont importantes à cette période de l'année, notamment de l'agriculture et du chauffage au bois. Et je compléterai juste avec un élément aussi, ça a baissé de l'ordre de 50% sur certains axes en dioxyde d'azote, ça baissait aussi de l'ordre de 30% pour les particules ultra fines.
Ça, c'était donc le porte-parole d'Air Paris, Pierre Chasseret. Oui, bah, mais voilà. Ça veut dire que vous prenez le chiffre de 7% pour minimiser, mais il y a eu, surtout, il donne un chiffre, 50% de baisse de dioxyde d'azote. C'est bien le dioxyde d'azote. Lucille Raymond-Kerjus, c'est bien le dioxyde d'azote qui est en cause aujourd'hui dans la pollution de l'air. Le plus.
Oui, évidemment. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le transport n'est évidemment pas le seul émetteur. Et c'est bien le problème de pouvoir mesurer l'efficacité de ces zones à faible émission, c'est que on continue à polluer par ailleurs, notamment le logement avec le chauffage qui est l'intérêt de toucher à la voiture, enfin au transport, c'est que c'est plus rapide et plus facile que d'isoler tous les logements.
Pierre Chasseret, ce que dit Air Paris, vous l'entendez aussi.
Ah et, bah oui, je aussi.
Et j'ajoute, donc, un rapport de Santé publique France qui date d'avril 2011 sur le confinement, le premier confinement au printemps 2020, qui écrit, je cite, « Les baisses ponctuelles des niveaux de pollution au printemps ont eu des bénéfices non négligeables pour la santé, notamment grâce à la baisse du dioxyde d'azote avec 1200 morts évitées. » Ça, vous l'entendez quand même ?
Attention. Déjà, la phrase, bien sûr que j'entends, mais c'était la deuxième partie. Il ne faut pas tout mettre parce que si vous mettez toutes les infos d'un coup, et que vous m'attaquiez sur tous les points,
non,
je vais avoir du mal à répondre.
Je ne vous attaque pas, je vous donne des faits et des chiffres.
Je
ne
suis pas là pour défendre les voitures, je vous donne juste des faits. Donc les concentrations de particules ont baissé de 7%, ce n'est pas moi qui le dis, je vous ai cité de mémoire Air Paris, vous avez vu que c'était juste, donc très bien. Ok, maintenant on va se baser sur un truc. Vous me dites, ouais, vous avez vu maintenant le dioxyde d'azote, super. Sauf que je vous rappelle qu'il y a quelques années, quand on a mis en place les zones de circulation alternées, les pics de pollution, c'était basé sur quoi ? Sur les concentrations de particules fines. Donc il faut arrêter de me prendre pour un idiot. La réalité, c'est que... Ah si, c'était ça. C'était les concentrations de particules fines qui étaient mises en...
François Roudier, vous qui connaissez, qui avez la parole des constructeurs, aujourd'hui, le problème, le point noir dans une voiture qu'il faut que les constructeurs essayent de baisser le plus, c'est quoi ? C'est les émissions de particules fines, les émissions de dioxyde d'azote ?
Les deux.
Dioxyde d'azote, les particules, c'est réglé. Les particules, c'est réglé complètement parce que vous avez des filtres à particules et puis des systèmes de combustion.
Petit, freinage,
je sais que vous n'êtes pas d'accord, oui, mais le freinage reste encore extrêmement limité. Non, ce qui est compliqué, alors surtout au niveau de la région parisienne, on est partenaire, hein, membre d'Air Paris, c'est que vous avez des saisonnalités, hein, vous avez des émissions qui se font lorsqu'il y a des épandages dans les champs qui entourent notre région parisienne, et vous avez aussi en hiver ce que j'appelle, alors pardonnez-moi, un peu le chauffage de la misère, c'est-à-dire que vous avez du chauffage au bois et les gens brûlent n'importe quoi, des palettes qui sont extrêmement chimiques et ça fausse complètement tout ça.
Mais moi je m'étonne. Pardonnez-moi, mais je m'étonne en fait de vous entendre dire que l'histoire des particules fines s'est réglée. Aujourd'hui, il y a une norme, la norme Euro 7, qui voilà n'est pas entrée en vigueur et contre laquelle les constructeurs automobiles s'opposent.
C'est quoi cette norme ?
Alors c'est une norme européenne en fait qui a pour but de définir les émissions des véhicules automobiles qui sont autorisés et qui seront commercialisés au sein de l'Union européenne. Donc voilà, il s'agit d'établir en fait un
c'est
seuil.
Pas sur les particules.
Alors particules fines et dioxyde d'azote.
Oui, mais c'est surtout sur les oxydes d'azote.
Bien sûr, mais
alors,
particules fines.
Juste qu'on comprenne, les oxydes d'azote, est-ce que c'est ça qui pollue le plus ou pas ? C'est ça le vrai point noir.
C'est un gaz irritant. C'est un gaz irritant qui peut effectivement déclencher des problèmes cardiaques en particulier.
D'accord.
Et donc cette norme qui devrait voir le jour, mais qui ce n'est pas encore le cas, les constructeurs automobiles s'y opposent. Elle est beaucoup plus protectrice et j'ai entendu même le ministre Bruno Le Maire s'y opposer en disant que c'était excessif. Alors si protéger la santé des Françaises et des Français c'est excessif,
je vais vous dire pourquoi quand même.
C'est problématique.
Alors vous avez quand même un problème de timing. Si on a un problème de timing, cette norme doit arriver en 2030. Ouais. En 2035, on ne vend plus que des véhicules électriques.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il faut franchement dépenser de la recherche et du développement sur les moteurs thermiques qui sont arrêtés et invendables 5 ans plus tard, ou est-ce qu'on continue comme ça et on passe plutôt notre argent et notre intelligence à travailler sur l'électrification? Donc, vous voyez, on n'a pas tout à fait les
mêmes
réglettes.
Mais du coup, là, c'est des critères, c'est aussi des critères de rentabilité pour vous, d'investissement.
Alors, rentabilité,
j'espère
qu'un jour,
d'ailleurs,
on pourra en discuter, parce que pour l'instant, la voiture électrique, elle n'est pas rentable pour les constructeurs. On est dans un investissement qui se fait à coût de dizaines de milliards d'euros. Hein. Regardez ce qui se passe à la fois chez les constructeurs, chez nos partenaires qui créent des usines de batteries en Europe, parce que vous soyez un véhicule purement électrique, hybride, hydrogène, avec une pile à combustible, vous avez besoin de batteries. Ces batteries, elles sont chinoises pour l'instant. Donc on a besoin d'avoir ces batteries. Et là, les investissements sont lourds.
Une question de Thibault par mail. Le changement de mon vieux véhicule pour un véhicule thermique neuf n'est-il pas plus polluant si l'on prend en compte l'ensemble de la vie du produit? Et je pense qu'on peut poser la question avec un véhicule électrique neuf aussi. François Roudier?
Non, alors pas vraiment. Non, parce que les études montrent que il y a une étude très récente d'ailleurs qui est sortie sur les véhicules électriques. C'est une ONG de Bruxelles d'ailleurs qui l'a sortie, qui montre bien que un véhicule électrique, même produit dans un pays où l'électricité est au charbon, reste un véhicule qui émettra moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique. Alors attention, après, s'il est utilisé en Pologne ou en Allemagne, oui, là, il émet beaucoup plus de gaz à effet de serre.
Pierre Chasseret, à chaque fois qu'il y a des évolutions, des changements en ce qui concerne évidemment le secteur automobile, il y a toujours, ça râle toujours au moment où on a dû mettre la ceinture de sécurité au début des années 70, ça râlait. Dans les années 90, à l'arrière, ça râlait. La fermeture des voies sur berge à Paris, ça râlait. Mais ça râle. Oui, mais au final, les gens s'y font. Il n'y a pas aussi une question d'adaptation qui doit être prise en compte.
Alors, on va faire très simple. Moi, mon rôle, c'est quoi?
Parce que, pardon, j'ajoute un petit PS à la question que je viens de vous poser. Encore une fois, il y a un enjeu derrière, c'est de limiter le réchauffement climatique et la pollution de l'air.
D'accord. Il y a même un troisième enjeu, la réappropriation de l'espace public.
Tiens, vous appelez Pierre Chasseret, je suppose.
Pierre Chasseret, c'est moi qui donne la parole.
On va faire très simple. Mon rôle est de défendre 40 millions d'automobilistes, avec dans cette population des gens qui se retrouvent bientôt sans pouvoir monter et utiliser leurs biens.
Et d'autres qui sont d'accord, et d'autres qui comprennent.
Qu'ils ont acheté, et peut-être même pour certains, qu'ils ont acheté avec un bonus écologique. C'est une hérésie de dire à quelqu'un qui a acheté une voiture avec un bonus écologique que demain il ne peut plus s'en servir. Je pense que le calendrier, si on veut faire des zones à faible émission, prenons le temps. Pourquoi aller si vite?
2025.
Il y a urgence.
Excusez-moi, permettez-moi, on est vraiment déjà très en retard. Les premières zones à faible émission datent de 1996 en Suède. On est à 2008 en Allemagne. Et nous, on commence à en parler en 2019
en France. Justement, on commence à en parler.
Et la France paye des amendes tous les ans par l'Union européenne parce qu'on ne respecte pas nos objectifs de qualité de l'air.
Et même le Conseil d'État condamne la France.
Et le Conseil d'État également.
Pierre Chasseret, il y a, vous dites prenons le temps,
il
y a aussi...
Ça sert à rien.
Pas du tout, mais c'est important de vous poser les questions.
J'ai pas pu finir une phrase depuis le départ, quand même.
Vous en avez dit beaucoup.
Magnifique.
Vous parlez beaucoup, Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, c'est le principe d'un débat et je vais y répartir la parole. Voilà, je vous l'assure, à l'antenne, en direct, avec les auditeurs qui nous écoutent. Il y a une urgence climatique aujourd'hui et ce n'est pas une opinion que je vous donne, c'est un fait qui est reconnu, y compris par l'État français.
Ce n'est pas parce que l'intention est bonne que la mesure est juste.
Et donc,
qu'est-ce que vous proposez ?
Mais je ne suis pas là pour proposer. Je suis là pour vous donner un constat, un fait. Je ne suis pas politique. Je ne suis pas élu. Je ne fais pas de politique. Ça ne vous a pas échappé. Les décisions politiques, c'est vous qui les prenez pour l'instant. Cette décision n'est pas juste. À partir de là, retravaillez votre copie. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas parce que derrière, et ce qui me gêne le plus, c'est qu'on envoie tout le monde vers des véhicules électriques qui sont pour certains d'une efficacité redoutable, qui sont pour tous extrêmement pertinents en ville. Donc en termes de second, troisième véhicule dans un foyer, c'est génial. Par contre, en premier véhicule d'une famille, ça ne répond pas aux besoins de toutes les familles. C'est-à-dire qu'on envoie tout le monde avec des aides faramineuses, nos impôts, sur un type de véhicule, et je suis persuadé qu'autour de la table, hormis François Roudier et peut-être vous Camille, je ne suis pas persuadé que vous ayez essayé un véhicule électrique sur 800 bornes. Moi, je vous invite à faire le trajet, à faire le parcours. Parce que je vais vous raconter une anecdote, vous allez voir, c'est très marrant. Moi, je l'ai fait ce matin. J'ai fait 144 km en véhicule électrique. 144 km par l'autoroute, avec borne de recharge dans le milieu, parce que je n'allais pas au bout. J'ai mis 3h30. Parce voilà, dont acte. Merci.
Lucille Ramakers.
Oui, je voulais quand même compléter, hein, parce qu'on parle de mesures de justice sociale. Mmh. Il faut quand même savoir que les gens qui ont... Enfin, quand on parle des plus démunis, la plupart n'ont pas les moyens d'avoir déjà une voiture aujourd'hui, en fait. Et donc, eux, ils se déplacent en transport en commun et à pied, et éventuellement en vélo, mais la part modèle du vélo est très faible. Donc, si vous voulez, enfin, si vous intéressez vraiment aux personnes les plus défavorisées, il faut qu'on ait aussi l'argent pour développer des transports en commun et desservir ces quartiers-là. Et en plus, on parle beaucoup de voitures familiales, mais le problème, c'est que les gens qui se déplacent au quotidien avec la voiture familiale, c'est souvent une seule personne, et ensuite, tous les autres membres de la famille doivent se déplacer autrement. Donc il faut quand même qu'ils aient d'autres moyens de transport que la voiture. Et enfin voilà, vraiment, il faut avoir ça en tête. Et la voiture familiale, si elle sert juste pour partir en vacances, et dans ce cas-là, il y a peut-être une logique d'usage différente à prévoir, ou peut-être on loue une voiture pour l'usage dont on a besoin.
Juste rapidement, François Roudier, pour répondre à ce que vient de dire Lucille Ramakers, ouais. Les plus modestes n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures.
Non, je vais un petit peu avec parce le parc d'occasion. En fait, les ménages pauvres, pauvres au sens de l'INSEE, c'est-à-dire 950 € de revenus, ont 2 millions de voitures. Et des voitures qui sont dans vraiment le bas du parc qui roule, on le sait, parce qu'on a essayé d'avoir des garages solidaires pour essayer de les... Donc il y a effectivement une population un peu oubliée, et ce qui devient d'ailleurs même un problème dans toutes les grandes métropoles, c'est toute cette, ces lumpen conducteurs, toute cette banlieue servicielle qui arrive tôt le matin avant les horaires et qui utilise ces véhicules. Donc ça, c'est un point. Il y a un autre point pour temporiser ce que dit Pierre Chasseret. Moi, j'aime pas parler de transition écologique. C'est une révolution. Écologique. Une révolution, c'est une révolution.
À laquelle vous êtes favorable, mais contraint.
Mais le principe d'une entreprise, c'est de survivre et de préparer le futur. Donc nous survivrons parce que nous préparons le futur. Donc vous avez des plans qui permettent de faire ça. Mais quand je dis révolution, c'est, je dirais au sens Mao, ce n'est pas un dîner de gala.
Allez, voilà. Continuez à nous envoyer vos messages sur le mail du débat de midi sur le site de France Inter. Je n'arrive même plus à parler. Sur l'application France Inter, je me reprends avec le bouton intervenez et sur Twitter avec le mot-clé débat de midi.
Sous les lueurs poignardes du crépuscule sur le parking, on m'a forcé à boire. Et j'ai le pull taché de jean, de grande lampée, de myrtille, vodka, avalé à la fiole. C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole. On pousse encore un peu le volume, les gens se bousculent dans le noir. Les ambiances de pogo, de brume, de baisers et de verre au comptoir. J'ai tout tenté pour que tu me vois, j'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pensait de moi, juste pour te plaire. Juste pour te plaire. On s'est trouvé dans la pénombre, puis j'ai perdu ta trace. Les silhouettes qu'on peut confondre au bout d'un visage, une impasse. Tu m'as souri, puis t'es parti. Depuis, je compte les jours, les heures. Dans la fumée, il est minuit. Je voulais juste que tu me brises le cœur. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pensait de moi, juste pour te plaire. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pensait de moi. Détail qui puisse refaire.
faire l'histoire et calfeutrer la faille. On s'est loupé la veille, mais je garde en mémoire tes boucles d'oreilles et ton caracol noir. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on penserait de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on penserait de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on penserait de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi.
Juste pour te plaire, c'était Teamed Up et Valentine Chedebois à la programmation musicale.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Et nous sommes encore ensemble un petit quart d'heure pour ce débat animé autour de l'avenir de la voiture et de la voiture thermique, en particulier les essences et les diesels. Tiens, on a une question d'ailleurs sur le mail de France Inter de Xavier qui nous demande si on transformait son véhicule essence au GPL, est-ce que ça pourrait être une solution, François Roudier ?
C'est une solution temporaire, ça vous coûtera 3 000, 4 000 euros, donc il faut vraiment être sûr que le véhicule en vaut la peine, mais de toute façon, dans quelques années, votre véhicule, l'investissement que vous aurez fait sera perdu.
Alors, il y a une autre mesure qui a été déjà mise en place dans une ville comme Nantes, par exemple, et qui sera mise en place à l'Estime Site à la rentrée à Paris, c'est ça,
le 30 août,
c'est de passer toutes les rues, tout le centre à 30 km/h.
Alors, il y a, je pense, une petite incompréhension. Il y a l'abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h sur tout Paris, et ensuite la zone a apaisé à trafic limité au sein du centre de Paris.
Donc ça veut dire là où il n'y a pas de poids lourds, c'est ça, les zones à trafic limité ?
Alors, on parle de deux choses différentes. Si on parle de la mesure que vous évoquiez, l'abaissement de la vitesse de circulation dans tout Paris à 30 km/h, elle interviendra effectivement le 30 août, et l'objectif poursuivi par cette mesure, c'est déjà d'améliorer la sécurité routière. Parce qu'on sait bien qu'à Paris, on ne peut pas rouler excessivement vite, hein, et que la vitesse de pointe n'atteint jamais les 50 km/h. Donc le but premier, c'est d'améliorer la sécurité routière. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand il y a une collision entre une voiture et un piéton à 50 km/h, le risque d'avoir un accident mortel est de 80%. Si vous abaissez de 20 km/h la vitesse, le risque chute à 10%. Donc c'est avant tout une question de sécurité. Et ensuite, les nuisances sonores. Mmh. Exactement. Ça, c'est une pollution dont on parle peu et pourtant qui est extrêmement pénible.
Alors, on a justement un retour d'expérience un petit peu, puisque je disais que la ville de Nantes s'est déjà mise aux 30 km/h. Écoutez ce qu'en pense les automobilistes, ils sont assez partagés.
C'est pas très simple parce que ça bouchonne partout. Et je pense que c'est lié à ça.
Je suis obligée de me véhiculer en voiture tous les jours pour aller au travail. J'ai pas vraiment le choix. Et c'est devenu l'enfer, quoi. C'est pas pratique. C'est plus de bouchons, plus de ralentissements.
En revanche, pour d'autres, cette réduction de vitesse est synonyme de déplacement plus apaisé en ville.
Il y a de plus en plus de vélos, donc peut-être que c'est nécessaire de rouler à 30 km/h. Ça peut améliorer peut-être la circulation.
Ça permet aussi aux gens d'aller moins vite et du coup d'essayer de prendre les transports, parce que le vélo est aussi rapide. C'est ce que je fais en général.
Lucille Ramakers, est-ce que quand même, avec toutes ces mesures qui s'empilent les unes sur les autres, l'objectif à terme, que ce soit à Paris, à Nantes ou ailleurs, c'est de sortir la voiture des centres-villes ?
Tout à fait. C'est vraiment l'objectif. Encore une fois, la voiture est le mode de transport le moins efficace en ville aujourd'hui. La plupart transportent une personne. Enfin, on est à entre 1,2 et 1,6 personnes par véhicule. Ça prend de la place. C'est lourd. Les voitures, d'ailleurs, malheureusement, du fait qu'elles soient plus performantes, sont souvent encore plus grandes et encore plus lourdes, ce qui génère des problèmes de maintenance.
Mais donc, ça veut dire, pardon, que si l'objectif à terme, c'est d'éliminer les voitures des centres-villes, ça veut dire qu'aujourd'hui, même investir dans un véhicule électrique, ça ne servira pas à circuler en centre-ville à terme.
Mais parce que le but, ce n'est pas de circuler forcément en centre-ville avec un véhicule.
Oui, mais alors, pardon, je vous repose la question. Tout à l'heure, on parlait des moyens, des aides qui sont vous parliez de 19 000 euros d'aide. À quoi bon investir pour les conseils régionaux, pour l'État, etc. sur des aides, alors qu'en fait, à terme, les gens pourront de toute façon pas circuler dans les centres-villes?
Aujourd'hui, en fait, c'est pas dans les centres-villes qu'il y a le plus de circulation. En Ile-de-France, 60% du trafic routier est dans la Grande Couronne. Donc, en fait, les trajets de banlieue à Paris sont déjà très faibles aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut se reposer les questions autrement. Quelle ville est-ce qu'on veut avoir pour ses habitants? Si vous laissez de la place à la voiture, vous en prenez aux piétons et vous en prenez aux gens qui habitent sur place. Ça veut dire du coup que vous n'avez pas de parc pour les enfants, que les personnes âgées n'ont pas de place non plus pour se déplacer. Et c'est un vrai enjeu. Si on veut répondre aux enjeux du changement climatique, il faut que nos villes soient plus agréables à vivre et également plus résilientes.
Et pour ça, on a des messages sur Twitter, notamment d'une auditrice qui nous écrit: moi j'adore partir de grande banlieue pour aller dîner avec mes amis dans Paris. Le problème c'est que le soir je n'ai plus de train pour rentrer chez moi. Pierre Chasseret, s'il y avait des transports adaptés, des transports en commun, est-ce que vous pensez qu'un certain nombre d'automobilistes seraient prêts aujourd'hui à laisser leur voiture au garage et qu'ils n'utiliseraient que pour faire des grands trajets ou vraiment des trajets où il y a zéro transport ou pas?
Pour certains oui, et donc ça permettra d'avoir un peu moins de voitures, mais il ne faut pas oublier que la logique des grandes villes comme la logique de la France, c'est une augmentation de la population. Le problème, c'est pas la voiture, c'est la démographie. Quand j'étais petit, il y avait 50 millions d'habitants en France. Aujourd'hui, on approche les 70 millions.
Oui, mais tout le monde, aujourd'hui, donc, les usages changent, plus... c'est ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui.
Je l'entends très bien. Mais ce que je note autour de ces tables, c'est que j'ai bien entendu qu'il y avait surtout une volonté chez certains de nuire au déplacement en voiture.
Non.
Justifié par tout un tas de raisons, valable ou pas, je vais pas discuter, mais l'intérêt, c'est ça. Moi, ce que je me dis, c'est que je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Et il est là le décalage dont je parlais en début d'émission. C'est que vous avez une partie de la France qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces Parisiens là qui nous expliquent, qui nous disent ce qu'il faut faire dans toutes nos villes en nous parlant et en nous abreuvant que de Paris. Un seul exemple, je viens d'entendre madame, vous me dites, oui mais à Paris, et vous m'avez dit, et en métropole. Mais vous avez compris que les zones à faible émission touchaient aussi toutes les villes qui étaient en dehors de Paris?
Alors Pierre Chasseret, on a un
dans
message
la 86,
de
oui.
Colette.
Je parlais de la Grande Couronne qui est hors de la 86.
On a un message de Colette, Pierre Chasseret, sur le mail qui nous écrit: les propos de ce monsieur en parlant de vous sont caricaturaux. Paris n'est peut-être pas la France, mais que font des 4x4 et des gros SUV dans toutes les grandes villes? Je ne pense pas que ce sont des pauvres qui roulent dedans.
Je vais lui répondre. C'est une forme, une voiture, qu'il ait une forme de 4x4 ou une forme de véhicule comme un Renault Espace à l'époque qui était dans les années 90 le modèle en vogue pour les familles. Aujourd'hui, il y a eu un effet de balance. On ne voit plus de monospace, on voit des SUV qui sont, comme l'a dit François Roudier, je le rappelle, il faut donner les mensurations du SUV français. Ce sont de petits SUV qui sont plus petits d'ailleurs que les monospaces de l'époque.
Voilà. Je rajoute une question, Pierre Chasseret. Vous dites oui, les automobilistes, vous faites des généralités. J'imagine que dans les 40 millions de personnes qui ont aujourd'hui des voitures en circulation, il n'y a pas tout le monde qui dit on m'enlève. Il y a aussi des automobilistes, je l'imagine, qui sont pour et qui sont bien conscients de la nécessaire transition et qui se disent, moi je voudrais bien laisser ma voiture au garage,
mais
j'ai pas de transport.
Mais
on a plein de messages, j'ai pas tous voulu les lire, mais j'ai plein de messages d'auditeurs qui aimeraient bien.
Mais c'est à eux que j'envoie un message aujourd'hui. Alors, j'envoie un message qui est un message de non-égoïsme. Moi aussi, j'ai les moyens de rouler dans une voiture qui a le droit de rouler. Mais est-ce que je me dis tant mieux pour moi et tant pis pour les autres, ou est-ce que je réussis à penser en français qui habite dans un pays où socialement on peut pas se permettre de laisser 56% de la population sans moyen de transport? Je suis désolé, je ne ferai pas partie des bobos égoïstes. Point.
Vous versez dans la caricature, c'est assez pénible.
Si vous voulez.
Oui, non, très sincèrement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Je vous pose une question. Est-ce que les alternatives proposées aujourd'hui dans les villes, on ne va pas faire que Paris, vous êtes élue parisienne, mais on va les appliquer à toutes les villes aujourd'hui, que sont le vélo, les transports en commun, la marche à pied, pourquoi pas, mais est-ce qu'elles sont en gros transformables dans la réalité? Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre de vélo, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre les transports en commun.
Déjà, il ne s'agit pas de faire la guerre à la voiture. Il ne s'agit pas de faire la guerre à la voiture, il ne s'agit pas de vouloir supprimer la voiture à tout prix, il s'agit de réduire l'usage de la voiture dans les centres-villes, dans les villes, à l'usage uniquement indispensable. Pourquoi? On l'a dit, la pollution de l'air, la réappropriation de l'espace public, les
mais qui va réguler les usages indispensables à l'estime? Qui va les décider?
Il y a des alternatives, c'était votre question. Il y a des alternatives aujourd'hui. David Béliard, adjoint au transport à Paris,
met
la gomme, prend à bras le corps cette question et s'attache à développer, par exemple, à pérenniser, je vais vous donner un exemple, les coronabus. Qu'est-ce que c'est? En fait, pendant le confinement, on a, pour faciliter le déplacement en bus, on a créé des voies dédiées de manière à améliorer la régularité et la vitesse commerciale, la vitesse de circulation des bus. Ces coronabus vont être pérennisés de façon à ce que l'on puisse aller plus vite et que l'on ait une meilleure régularité dans ces transports collectifs qui sont moins polluants et qui prennent moins de place. Il y a des alternatives il faut investir pour ces années.
Vous, François Roudier, vous n'avez pas intérêt, pour prendre la parole des constructeurs français, à ce que de toute façon le parc se réduise, parce que vous aurez plus de ventes et donc de business.
Non, c'est pas évident, parce qu'on a aussi des systèmes différents qui se mettent en place. Vous avez des activités qui sont des directions propres, d'ailleurs, dans chaque constructeur, chez Stellantis, chez Renault, qui vendent des services de mobilité.
Mais l'enjeu, pour vous, l'enjeu, c'est de toute façon de vous transformer, parce que si vous vous transformez pas les constructeurs automobiles, c'est combien pour la filière? On a une question là-dessus.
Alors, si on ne faisait rien, on perdrait 100 000 emplois industriels et 50 000 emplois dans les services, c'est-à-dire la réparation, la distribution. Donc nous, le plan qu'on a proposé au président de la République, d'ailleurs qu'il avait accepté, c'était de dire avec 17 milliards d'investissements, dont un tiers par les pouvoirs publics, on peut arriver à tenir et à faire que la France reste une grande nation automobile. Derrière, tout ça sera des créations d'emplois autour de 35 000. Donc il y aura effectivement une diminution de l'emploi qui est absolument inexorable. Il faut, là où il fallait 10 personnes pour faire un moteur thermique, il en faut 3 pour faire un moteur électrique.
Et un petit message aux auditeurs qui nous écoutent et qui auraient des questions plus précises sur les voitures électriques. Je signale que le téléphone sonne ce soir à 19h, fera une émission spéciale sur les voitures électriques précisément. Donc n'hésitez pas à appeler ce soir à partir de 19h le standard de France Inter au 01 45 24 7000. Lucille Ramakers, finalement, qu'est-ce qui doit sortir de tout ça? Les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils se disent quoi? Je dois acheter une voiture électrique? Je dois prendre plus les transports en commun? Si j'ai ni l'un ni l'autre et pas les moyens, je fais quoi? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire en deux phrases?
En fait, la question principale, c'est quel est le meilleur moyen de transport pour mon déplacement? Parfois, c'est la voiture, mais souvent, c'est pas le cas. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a une voiture, on a tendance à l'utiliser pour tout. Ce qui amène à des fois, aller acheter son pain avec une voiture, alors que finalement, le trajet est pas si long. Et donc, du coup, il faut repenser tous les aménagements pour qu'on puisse se déplacer de façon sécurisée, autrement qu'en voiture. C'est vraiment ça l'enjeu. Et il faut qu'on puisse continuer à vivre dans nos villes denses et arrêter de s'en éloigner.
Et juste un mot pour les gens, parce que même si effectivement la majorité de la population est en ville aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont à la campagne. Pierre Chasseret, vous le confirmez?
Oui, j'ai juste une phrase. Je voudrais raconter cette histoire, elle va être très rapide. Moi, je connais un couple, une femme qui a été atteinte d'un cancer. 144 km pour venir à l'hôpital Villejuif, vous savez, le centre de cancérologie. Elle a un Volkswagen Touran 3, elle ne peut plus y aller. Voilà, vive les zones à faible émission.
On se termine comme tous les jours avec le mini débat du jour. Vous avez deux propositions, un choix, et aujourd'hui c'est de rigueur. Boire ou conduire? Il faut choisir. Boire ou conduire?
Boire.
Conduire.
Boire.
Boire et rester à la maison et repartir le lendemain en voiture.
Et bien sûr, Twitter, c'est boire qui l'emporte avec modération, bien sûr, avec 51% des votes. Conduire avec prudence, 49% des votes. Merci beaucoup à tous les quatre. Très bon après-midi.